franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Vous avez sans doute encore en tête des phrases de ce type, les grandes forêts sont les poumons de la planète, ou la forêt amazonienne capture de grandes quantités de CO2 émis chaque année. Eh bien, oubliez tout, car selon un nouveau bilan américain paru dans la revue Science, les grandes forêts tropicales ne permettent certainement plus de stocker du CO2 du fait de leur usage et de leur état. Axel, on en parle aujourd'hui avec Philippe Pellin.
Bonjour Philippe Pellin.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste du cycle du carbone, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On est également en studio avec Hervé Kempf, rédacteur en chef du magazine reporter.net. Hervé, on en est sûr, ce ne sont certainement pas les forêts qui vont nous sauver alors.
Si on continue à les détruire, non. On s'était habitué effectivement à considérer les forêts comme des sortes de poumons. Alors pas vraiment, puisque le poumon humain absorbe de l'oxygène et rejette du CO2, alors que les forêts absorbent du CO2 et produisent de l'oxygène. Mais enfin, en ce qui concernait les forêts tropicales, l'idée, Mathieu l'a rappelé, était que le bilan était stable, voire positif. Et notamment, il y avait eu des études importantes en 2009 de terrain qui concluaient que les forêts tropicales absorbaient plutôt plus de CO2 qu'elles n'en rejetaient. Eh bien, l'étude parue dans Science change totalement les idées. Et pas de manière encourageante. Selon les chercheurs, les forêts tropicales émettent plus de carbone qu'elles n'en absorbent. Et cela n'est pas dû seulement à la déforestation qui continue à augmenter, qui a même repris de façon importante au Brésil notamment, mais aussi à la dégradation de la forêt, à la négligence de la biodiversité.
Alors Philippe Pellin, comment est-ce qu'il faut comprendre ces travaux? Est-ce que c'est que les grandes forêts subissent tellement de pression que les pertes sont plus importantes que les absorptions?
Alors, il faut peut-être replacer un peu les choses dans son contexte. L'étude récente parue par Bassini et al. Dans Science tente à montrer par une approche donnée, que ces forêts tropicales seraient actuellement une source de carbone vis-à-vis de l'atmosphère. Alors, pour replacer un petit peu les chiffres, il faut juste se remettre dans le contexte. On émet, les hommes émettent dans l'atmosphère environ 10 milliards de tonnes de carbone en général. On parle en pétagrammes de carbone dans l'atmosphère. La moitié seulement s'accumule dans l'atmosphère, et ça c'est relativement bien connu. Et l'autre moitié, en fait, est réabsorbée soit par les écosystèmes terrestres, soit par les écosystèmes océaniques. Et donc, on est sûr que, en gros, un quart de ces émissions, à peu près, est réabsorbé par les écosystèmes terrestres. Après, donc, toute la grande question, quel est le rôle des forêts tropicales dans ce puits? Alors, cette étude tendrait à montrer que, d'une part, bien sûr, des portions ou des parties de la forêt ou des zones de ces écosystèmes absorbent du carbone, mais en absorbent moins qu'elles n'en relâchent, d'un facteur 2 environ. Environ 0,8 pétagrammes sont relâchés, alors pour une absorption de 0,4, le bilan étant donc une émission totale d'environ 0,4 pétagrammes. C'est très variable, selon cette étude, entre l'Amérique, l'Afrique ou l'Asie.
Pour bien comprendre, j'ai une petite question quand même. C'est quoi une émission de CO2 pour une forêt? Comment une forêt peut émettre du CO2?
Alors il y a deux manières, deux grandes voies classiques. Soit on déforeste pour utiliser les zones de forêt pour d'autres usages, notamment les usages agricoles. Donc là on brûle directement la forêt et tout le carbone contenu dans le bois, dans la végétation, est oxydé et est réémis dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Ou alors, on dégrade cette forêt par des usages plus intensifs, on utilise une partie de cette forêt pour faire du bois, pour se chauffer, pour utiliser le bois pour différentes sources, pour différentes utilisations humaines. Et donc là, la dégradation est plus ou moins... plus indirect et le carbone contenu dans ce matériau va se retrouver dans l'atmosphère à une échéance plus ou moins courte. Donc ces deux mécanismes, dégradation d'une partie et déforestation de l'autre, en général, ont été estimés un petit peu de manière séparée. Et l'approche de cette étude, c'est de regarder directement l'ensemble pour toute cette bande tropicale. Et il conclut à un effet net vers l'atmosphère, d'émissions vers l'atmosphère d'environ 0,4 pétagrammes, milliards de tonnes de carbone par an.
Est-ce qu'on sait, Philippe Pellin, quand cette inversion a commencé, quand ce processus s'est enclenché justement avec plus de relargage de CO2 dans l'atmosphère?
Alors non, c'est assez difficile à dire. Donc juste pour un peu comprendre plutôt les incertitudes liées à ce type d'étude, il faut déjà dire que la dynamique de la déforestation au niveau des tropiques, elle a été variable. Il y a eu une décélération au début, il y a une dizaine d'années, liée à tout un nombre de politiques, notamment en Amérique du Sud, de politiques pour limiter la déforestation illégale notamment. Il y a probablement plutôt une reprise très récente. Mmh. Et la dynamique est différente en Afrique où on a plus d'études qui ont montré des effets de dégradation vraiment de la forêt, une utilisation partielle, pas forcément brûlée complètement pour utiliser pour faire des cultures, mais une dégradation partielle. En Asie, il y a eu beaucoup de déforestation de forêts primaires pour notamment faire des plantations. Et donc avec des dynamiques assez variables, mais néanmoins c'est difficile à dire, ces études sont quand même toutes relativement incertaines. Juste pour rappeler le principe de cette étude, c'est de regarder sur des sites où on a effectivement, on mesure la quantité de carbone d'une forêt, on relie ça avec un modèle dit statistique à des mesures spatiales par satellite, notamment des mesures LIDAR dans un premier temps, qui permettent de mesurer un petit peu la structure verticale de la canopée d'une forêt. Et ensuite, une deuxième approche statistique relie ces mesures LIDAR à d'autres mesures optiques de l'instrument MODIS qui lui couvre une grande période, les 10 dernières années. Donc la causalité depuis vraiment l'observation sur des sites de la quantité de carbone dans cette forêt et la mesure par satellite est relativement indirecte, source de nombreuses incertitudes potentielles. Et donc les incertitudes, à mon sens, liées à ce type d'études restent encore relativement fortes, ce qui fait qu'on a des estimations qui sont parfois divergentes sur la capacité de ces écosystèmes à stocker du carbone.
Si on met de côté quand même les incertitudes, l'idée générale c'est qu'une forêt absorbe, est neutre ou rejette du CO2, parce que est-ce que quand même on peut se placer à un de ces trois points?
Alors, à l'état d'équilibre, une forêt à l'état d'équilibre n'est pas un poumon dans le sens où elle absorbe du CO2 et rejette du dioxyde de carbone. À l'état d'équilibre, une forêt naturelle sera neutre. Elle va absorber autant de carbone qu'elle n'en relarguera. Mais, donc ça c'est une première idée reçue qui est souvent qui est fausse. Néanmoins, depuis la perturbation humaine, depuis l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, les écosystèmes en moyenne absorbent plus de carbone que par le passé. C'est ce qu'on appelle l'effet fertilisant du CO2 dans l'atmosphère. Il y a plus de CO2, donc la photosynthèse est plus forte. Donc depuis le début de cette perturbation industrielle, les écosystèmes absorbent du CO2.
Mais là, dans
les... sûr, ouais. C'est qu'en global, sur l'ensemble de la planète, les écosystèmes terrestres absorbent une grande partie, un quart environ, des émissions de CO2 par l'homme.
Là, dans l'étude, en fait, il précise que seulement 15% de la superficie des forêts tropicales enregistre des pertes nettes. Comment vous expliquez que ce soit seulement sur 15%, en gros, des forêts tropicales ?
En fait, donc une grande partie de 60%, ils disent environ de ces zones sont un bilan, on va dire, neutre ou nul, et seulement 15% qui sont sujettes à soit une forte pression de déforestation, notamment tout autour du bassin amazonien où la déforestation ne commence plutôt par les périphéries, et en plus les zones de dégradation sont plutôt des zones où la densité humaine est forte et où la pression, l'utilisation de la forêt par l'homme est plus forte qu'au cœur des forêts très tropicales, au cœur de l'Amazonie ou au cœur du bassin du Congo en Afrique.
Merci beaucoup Philippe Pellin, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et ce sujet on le retrouvera dès demain sur reporter.net RVKMF.
Tout à fait.
Et à la semaine prochaine, et Axel, dès demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Les grands requins blancs livrent une partie de leurs secrets en suivant pendant 5 ans 32 requins blancs dans les eaux de l'Atlantique. Des scientifiques décrivent précisément leur comportement migratoire entre le nord et le sud chaque année. On les pensait plutôt lents, naviguant proche des côtes et de leur nourriture. Et bien les données satellites récoltées par les chercheurs révèlent une toute autre réalité. Ces géants blancs peuvent faire de longues distances journalières et surtout s'aventurer loin dans les masses d'eau froide jusqu'à des profondeurs records de 1128 mètres, des zones dites bathypélagiques ou encore zones de minuit où plus aucune lumière du soleil ne parvient. Le nouveau défi maintenant est de comprendre ce que vont chercher ces requins si profondément dans l'océan. Produire des molécules pharmaceutiques rares et chères grâce à des œufs de poule génétiquement modifiés. Cette idée controversée fait l'objet d'une première au Japon, où des chercheurs de Kaisei démontrent pour la première fois sa faisabilité en manipulant génétiquement des spermatozoïdes, puis en fécondant des ovules avec cette semence. Ils ont obtenu des œufs de poule dans les premiers stades du développement de l'embryon du poussin, produisant donc des molécules d'interféron, une drogue très difficile à produire et valant 1000 dollars le microgramme. En récoltant les œufs et en isolant la drogue quotidiennement, les chercheurs pensent réduire considérablement les coûts de production. 79% des miels produits en Europe contiennent des traces d'au moins un pesticide tueur d'abeilles, bien que selon les chercheurs, les concentrations retrouvées ne comportent pas de risque pour la santé des consommateurs. Cette découverte, réalisée par des Écossais, est très inquiétante car elle montre que la plupart des élevages d'abeilles sont exposés aux néonicotinoïdes. Pour un tiers des miels, les niveaux détectés sont suffisants pour perturber le système nerveux des pollinisateurs et les rendre inaptes à butiner ou simplement agir normalement dans la colonie. Le même taux de contamination est de 86% pour les miels aux États-Unis, 80% en Asie et 57% en Amérique du Sud. Et puis pour terminer, n'oubliez pas, depuis vendredi, encore toute la semaine, la fête de la science. Partout en France, près de chez vous, certainement, il y a forcément des animations qui s'organisent, des rencontres, des portes ouvertes, des spectacles ou des conférences. 6000 événements au total sont organisés en métropole et dans les dom-toms. Renseignez-vous sur fêtedelascience.fr car les chercheurs vous attendent.